Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Professeur Étienne Gis, bonjour.
Bonjour à vous.
C'est un très grand plaisir de parler avec vous. Vous êtes mathématicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS, unité de mathématiques pures et appliquées à l'ENS de Lyon, École normale supérieure. Oui. Vous avez reçu en 2022 la médaille de la médiation scientifique du CNRS. Vous êtes également l'auteur de La petite histoire des flocons de neige, prix Le goût des sciences du ministère de la Recherche en 2022, et vous êtes aussi l'auteur de La petite histoire du ballon de foot. Et aujourd'hui, nous allons parler de Ma petite histoire des nombres. Et vous nommez toujours vos réalisations Ma petite histoire des nombres, du foot et le petit flocon de neige. Mais c'est un goût des choses petites.
En effet, vous avez tout compris, j'aime bien les choses petites. Depuis toujours, j'aime bien les choses petites, pas les grandes choses, même y compris en mathématiques. J'ai travaillé toute ma vie sur des mathématiques parfois compliquées, mais c'est un tout petit peu paresseux dans le sens que quand les choses deviennent sérieuses, difficiles, eh bien, j'ai honte de le dire, mais je me détourne de la difficulté et je pars vers un autre chemin. Donc j'aime bien, dans le domaine des mathématiques est tellement vaste, j'aime bien, disons, ramasser des petites fleurs sur le bord du chemin, plutôt que de m'enfoncer dans la jungle obscure et ténébreuse.
Alors ce livre...
J'aime bien donc les choses petites.
Petites, mais qui sont... j'ai l'impression que c'est comme un travail impressionniste avec des touches, et toutes sont accomplies, et si on zoome sur la moindre des touches, on voit un univers, et c'est l'univers scientifique où tout roule et vibre.
Vous avez bien compris. J'essaye, avec mes modestes moyens... J'essaye de montrer aux gens, j'aime bien le mot « gens », les gens que je rencontre dans la rue, j'essaye de leur montrer que les maths n'ont pas la froideur qu'on leur attribue d'habitude. En général, on pense qu'un mathématicien ne fait que des calculs abstraits et sans émotion. Donc j'ai essayé un peu d'expliquer que les mathématiques, et le calcul en particulier, peut contenir de l'histoire, de l'émotion, de la culture... Et puis dans le titre, vous avez remarqué qu'il y a pas, il y a petite, vous avez remarqué petite histoire, mais il y a aussi ma. J'ai tenu à mettre le possessif parce que je ne cherche pas à être en aucune manière universel. Tout ce que je veux, c'est parler de mon ressenti avec des petites histoires qui sont pas toujours cohérentes, mais qui sont toujours relatives à mon expérience personnelle. Ce que ça a impliqué chez moi, ce que j'en ai ressenti, et des choses comme ça. Et puis j'ai mis, ça, je suis sûr que vous ne l'avez pas remarqué, à un moment je mets quelques photos de mains d'enfant pour expliquer comment on peut calculer avec ses mains.
Ah oui.
Bah, ce sont les mains de ma petite fille. Vous voyez ce genre de choses, j'essaye de faire des choses qui sont autour du personnel.
Voilà. Et alors les nombres, c'est... Comme c'est déplié, ce concept est déplié en plusieurs entités. Il y a les chiffres, il y a les numéros, il y a les nombres abstraits, concrets, premiers. Alors, parlez-nous un petit peu de cette galaxie des nombres.
Le mot galaxie est bien choisi.
Merci.
En effet, il y a d'abord une différence de vocabulaire, entre guillemets, entre les chiffres. Et les nombres, les chiffres, eh bien, c'est 0 jusqu'à 9, c'est le symbole. Le nombre, c'est ce qui est fait à partir de ces symboles, par exemple 2412, excusez-moi, c'est un nombre construit à partir des chiffres 2, 4, 1, 2. C'est un peu comme les mots de notre langue, ou d'autres langues d'ailleurs, sont fabriqués à partir de lettres. Donc les lettres sont les analogues des chiffres et les mots sont analogues au nombre. Je vais vous donner une petite histoire que je trouve intéressante. Il y a à France Inter une émission qui s'appelle « Les petits bateaux ». Il s'agit d'enfants très jeunes qui téléphonent à la radio et qui posent des questions. Et puis la journaliste choisit un expert et lui demande de répondre aux questions en 2 ou 3 minutes. Alors c'est pas en direct, c'est présenté après. Et alors j'ai répondu à quelques questions. L'une d'entre elles était la suivante. Écoutez bien. Un enfant de 5 ans et demi qui me demande celui qui a inventé les nombres. Comment il a fait ? Alors que lui, il sait que les nombres, ça ne s'arrête pas, mais il sait qu'il va mourir. Vous vous rendez compte de cette question profondément philosophique ? J'ai adoré l'idée qu'un enfant puisse saisir, comme par une espèce de révélation, le concept d'infini, qui est un peu grisant, qui est un peu terrifiant. Hein, quand on est face à l'infini, on a un peu peur. Et il s'est posé la question, comment est-ce qu'on a pu inventer l'infini alors qu'on n'a qu'un nombre fini de chiffres ? C'est joli, non ? Voilà, c'est intéressant parce que sur les questions que m'ont posées les enfants, une bonne moitié parlait d'infini. Je trouvais ça assez impressionnant. Des petits-enfants de 6 ans, 7 ans, 5 ans, qui parlent d'infini à des adultes, ça m'a interpellé.
Et moi, ce que j'ai aimé aussi, l'idée de mathématiques pures. C'est quoi ?
Alors, ça, c'est un mot, en quelque sorte, un peu moderne, disons, qui date du XXe siècle, sans aucun doute, et qui est un peu hors de propos aujourd'hui. Alors, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu. Disons, depuis les origines, il y a deux façons différentes de faire des mathématiques. Soit on fait des mathématiques parce qu'on veut résoudre un problème concret, par exemple... J'aimerais bien calculer la superficie de mon champ, ou j'aimerais bien savoir combien d'oranges je peux mettre dans un panier. Ça, ce sont des mathématiques qu'on peut dire appliquées, c'est-à-dire qu'on veut résoudre une question concrète, et s'il le faut, on développe des outils pour répondre à cette question. Ça, on appelle ça aujourd'hui des mathématiques appliquées ou applicables. Et puis, de l'autre côté, il y a des mathématiques purement abstraites, qu'on appelle pures, parce que on les pratique sans l'idée d'application future, juste pour le plaisir. Pour le plaisir de soit de calculer, soit d'imaginer des quantités ou des images mathématiques. Alors, l'expérience de l'histoire nous montre que ces deux choses sont très, très reliées et qu'il y a des ponts entre ces deux approches. Et que très souvent, ce qu'on pense être complètement pur et qui ne servira jamais à rien, eh bien, 10 ans plus tard, 50 ans plus tard, un siècle plus tard, ça devient une chose indispensable dans des problèmes concrets. Donc, il y a un petit jeu de chat et de la souris, si vous voulez, entre le pur et l'appliqué, qui fait qu'aujourd'hui, la limite n'est plus définie. On ne devrait plus employer ces mots mathématiques pures, mathématiques appliquées, parce qu'il y a comme un continuum entre les deux. Pour vous donner 2 exemples pour expliquer tout ça, vous pouvez penser, par exemple, il y a 2 grands mathématiciens de l'Antiquité grecque. Hein, il y a Euclide d'un côté et Archimède de l'autre. Alors Euclide, c'est vraiment le prototype du mathématicien pur. Quand vous lisez l'œuvre d'Euclide qui s'appelle « Les éléments de géométrie », dans ce livre d'Euclide, quand il dessine des triangles ou des rectangles, quand il démontre des théorèmes, le théorème de Pythagore ou je ne sais quoi, jamais, jamais, jamais il n'imagine que le rectangle qu'il a dessiné est un champ d'un paysan. Non, c'est un rectangle abstrait. Si vous voulez, c'est un rectangle... on peut dire platonicien, qui vient du monde des idées. Et en revanche, si vous allez lire Archimède, c'est tout le contraire. Archimède est un grand génie aussi, mais Archimède, vous savez peut-être qu'il a participé à je ne sais plus quelle guerre contre les Romains, où il a inventé des armes de guerre pour enflammer les navires ennemis ou pour lancer des boulets de sorte de canons, de catapultes. Donc dans l'esprit d'Archimède, il y avait toujours l'idée que les mathématiques, ou la mathématique, peu importe, doit fonctionner comme un moyen d'être utilisé dans le monde concret. Si vous voulez, on est un peu entre Platon et Aristote, pour simplifier.
Alors, qui vous a donné le goût des maths, puisque vous aimez les enfants, vous aimez les origines, vous aimez ce qui est encore innocent et pur? Comment est-ce que vous avez eu cette l'idée de faire des maths, d'entrer dans que votre vie soit mathématique?
Alors, c'est une question compliquée. Je n'ai pas trop envie de faire une psychanalyse par téléphone.
Mais avez-vous fait une psychanalyse vous-même?
Non. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour tenter le tout début d'une psychanalyse, lorsque j'étais enfant, j'étais un petit garçon très timide et un peu introverti, qui n'avait pas de copains et qui vivait dans son coin, si vous voulez. Et mes parents savaient bien que je pouvais me mettre dans ma chambre et je lisais un bouquin de maths et j'étais tranquille et on ne me dérangeait pas. D'une certaine manière, je me suis construit autour de moi une espèce de bulle dans laquelle je me sentais bien et un peu protégé du monde extérieur, une espèce de bulle un peu platonicienne précisément. Hein. Mm-hmm. Et voilà, et donc pendant longtemps, j'ai pensé aux mathématiques comme quelque chose qui m'appartenait à moi, tout seul. Mm-hmm. Et puis au fur et à mesure de ma vie scientifique, j'ai compris que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus sympa de faire des maths avec d'autres. Et surtout, je ne vais pas tout raconter, mais surtout lorsque, bien des années plus tard, j'ai eu le bonheur d'avoir des étudiants doctorants. Et là, c'est un partage, je ne sais pas s'il faut dire, mais c'est assez jouissif, en fait, hein, de partager des mathématiques avec d'autres personnes qui ont le même intérêt que vous. Donc voilà, donc il y a eu ce partage que j'ai trouvé très... très motivant pour moi. Et puis ensuite, écrire ces petits livres sur les ballons de football ou sur les flocons de neige, qui mathématiquement, pour moi, c'est pas grand-chose. C'est juste... Mais franchement, partager ça avec l'homme ou la femme de la rue, ça a été un autre bonheur. Mmh. Voilà, donc depuis le petit garçon dans sa bulle tout seul, jusque le professeur avec ses étudiants en doctorat, jusque... l'homme qui a écrit des bouquins qu'on vend à Carrefour, ça fait une évolution. Voilà.
Mmh. Alors, il y a des personnalités qui vous ont vraiment charmé, on va le dire. Henri Cartan, Poincaré. Vous êtes aussi interpellé par Alexandre Grothendieck, qui, lui, connecté la géométrie et l'algébrique en une théorie unique. Ça, c'est révolutionnaire. Vous dites quelque part que c'est le géant de notre siècle?
Alors, si je peux me permettre de vous contredire.
Oui.
J'aime pas le qualificatif géant. J'aime pas qu'on dise un grand mathématicien. J'aime pas qu'on parle trop du mot génie. Je pense que le développement de la science en général et des mathématiques en particulier, bien sûr, il y a des gens qui nous montrent le chemin. Bien sûr, il y en a qui sont beaucoup plus brillants que d'autres. Mais ces gens-là se sont appuyés sur d'autres. Il n'y a pas d'armée sans fantassins. Hein. Et voilà, moi j'ai quand même une approche plus globale. Bien sûr, quand on écrit des petits livres comme je le faisais, c'est important aussi de mettre en avant des exemples. Mais s'il n'y avait que Henri Cartan et que Grothendieck, oh là, que ça serait triste. Par ailleurs, Cartan était plutôt, je sais pas, le mot sympathique n'est pas le bon, mais il était plutôt convivial, a eu beaucoup d'étudiants, etc. Et quant à Grothendieck, aussi très, très, très grand mathématicien, la question n'est pas là. Mais c'était quelqu'un qui avait un caractère difficile. Et disons que je ne l'ai jamais vu. Mais Grothendieck, je vais le dire, quoi. J'aurais pas aimé être copain avec lui.
Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Non, mais qu'est-ce qu'il avait? Parce que moi, Grothendieck, dit que je suis un peu en admiration. Et aussi par rapport à sa rigueur pour l'écologie, etc., il est capable d'abandonner des choses, de combattre, il prend des risques. Et puis, il a inventé tout un monde dans la géométrie.
Vous avez raison, mais il faudrait mettre Grothendieck au pluriel, parce qu'il y a eu beaucoup de Grothendieck successifs. Hein. Il y a eu le premier Grothendieck mathématicien, et c'est de celui-là dont je parlais tout à l'heure. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui avait une vie exclusivement mathématique, qui était un peu dictatorial, avec une espèce de secte qui l'entourait.
Un peu fanatique.
Comment ?
Un peu fanatique dans les maths.
Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est la première période de sa vie, c'est celle-là dont je parlais à l'instant. Et puis, on peut dire tout à coup, ou en tout cas très rapidement, il a changé son approche, et il a fondé, participé au début de l'écologie politique, avec beaucoup d'excès d'ailleurs. Hein. Mais là, c'est autre chose. C'est une période de sa vie que je ne peux pas trop commenter, puisque je ne connais pas bien cette histoire. Mais c'est sûr, vous avez raison, il y a eu une activité assez exceptionnelle pendant cette période. On aime, on n'aime pas. Je ne peux pas commenter parce que je n'ai pas connu. Et puis ensuite, il a eu une troisième période dans sa vie où il s'est retiré dans un village perdu.
Oui, avec les chèvres, les vaches.
Il a vécu seul pendant des années. Et là, c'était une période d'assaise. Mm-hmm. Et là aussi, personnellement, je n'ai pas non plus à le commenter puisque je n'ai pas connu ça. Mais c'est pas...
Je voulais juste indiquer le domaine révolutionnaire pour les maths, où il a articulé donc géométrie algébrique en une théorie unique. Il a inventé un univers dans les maths.
Vous avez raison. C'est la première partie de sa vie. Oui. Et c'est de ça dont on parlait au début. Mm-hmm. Alors, pendant cette période, c'est ce que j'ai dit, j'aurais pas trop aimé de copain avec lui parce que il était très exclusif.
Oui, faux, comme on dit, je suis fou de peinture, je suis fou. Il était fou de maths, et il n'y avait rien d'autre, et c'était fanatique, et on comprend ça. Toute passion est exclusive. Personnellement, voilà, pardon.
Nous sommes d'accord sur ce point-là.
Très bien. Alors, je voulais savoir, est-ce que les mathématiques sont un langage? Les mots le sont, et parfois, les chiffres sont, dans certaines civilisations, connotés d'une valeur sémantique. Les maths, est-ce que c'est un langage?
Alors, comme vous le savez, vous posez des questions compliquées, dont les réponses ne sont pas uniques. Mathématiques, langage, oui. Vous connaissez peut-être la citation de Galilée. Hein, Galilée a écrit une phrase du genre... La nature est écrite dans la langue des mathématiques, ou quelque chose de ce genre. Mmh. C'est vrai. Mais ce n'est pas uniquement ça, dans le sens où, pour moi, les mathématiques ne sont pas un langage, c'est aussi un substratum. C'est quelque chose auquel on accède par un langage. Mais je ne voudrais surtout pas qu'on mélange le contenu mathématique intéressant en soi, avec la langue utilisée pour l'aborder. Mm. Hein, je vois plutôt un monde mathématique, un peu comme un monde un peu brumeux, un peu montagneux, avec des plaines et des vallées inconnues. Et pour y accéder, il faut utiliser un outil qui s'appelle le langage mathématique. Mais je ne voudrais pas qu'on confonde... l'objet mathématique du langage utilisé pour l'étudier.
Oui, bien sûr. Mais on sait très bien que les maths, c'est de toute façon, tout le monde a une conception de ce qu'est le monde des chiffres, des nombres. C'est un monde qui semble un petit peu impénétrable, sauf pour les artistes du genre, les ténors, mais ceux qui sont qui vivent pour ça, qui savent réfléchir, qui peuvent comme certains qui peuvent les goûter, les voir en couleur. Donc c'est un univers pour certains. Et c'est pour ça qu'il y a plaisir à vouloir dédramatiser en disant ça peut être un langage. C'est presque comme pour dire mais je ne suis pas exclu, je peux y aller. Le langage, tout le monde parle, mais les maths, c'est un domaine lointain, comme vous avez dit, brumeux pour les néophytes.
Bien sûr, vous avez raison, c'est une bonne façon de présenter les choses. Je vais ajouter une petite chose là-dessus, c'est que pour beaucoup de monde, mathématiques et calculs, nombres, c'est un peu la même chose. À vrai dire, je m'étonne moi-même de savoir pourquoi j'ai écrit ce petit livre sur les nombres, puisque en vérité, mes amours sont plutôt du côté de la géométrie et des figures, plutôt que des nombres. Mm-hmm. Mais voilà, je me suis dit, je vais parler des nombres et pas trop de géométrie. Mais je trouve que c'est intéressant de dire qu'il faut faire la différence entre ces deux aspects. En général, je ne vais pas faire de règles trop précises, mais en général, un mathématicien qui s'intéresse aux nombres, on va dire pour simplifier, un algébriste, a des comportements, des modes de réflexion assez différents du mathématicien qui s'intéresse à la géométrie, comme moi-même. Mm-hmm. Ce n'est pas le même genre de réflexion, et même, je ne vais pas vous dire que je peux faire la distinction du premier coup d'œil, mais disons que ce n'est pas des gens qui raisonnent de la même manière, j'ai presque envie de dire que ce sont des gens différents les uns des autres. Hein. Mmh. Il y a un livre fameux d'algèbre où, pour plaisanter, je pense que c'est pour plaisanter, il dit l'algèbre du côté gauche du cerveau et la géométrie du côté droit du cerveau. Voilà, donc c'est une blague. Mais il n'empêche que c'est vrai qu'on ne fonctionne pas de la même manière. En particulier, l'algébriste a besoin d'écrire des formules sur un papier. Le géomètre, comme moi, fonctionne en général sans rien du tout. Je travaille la nuit, les yeux fermés. Ah, donc, ce n'est pas du tout la même approche. Le monde géométrique et le monde algébrique sont des mondes finalement assez différents.
Oui, vous êtes connu pour votre recherche en géométrie et sur les systèmes dynamiques. Alors, la géométrie, on a tous été au collège, à l'école, un peu plus loin même. Mais les systèmes dynamiques, qu'est-ce que c'est ?
Quand on dit, on a tous vu ce que c'est que la géométrie, vous avez vu
on a une idée, epsilon, voilà.
Voilà, la géométrie que j'aime pratiquer n'a que très peu à voir avec la géométrie du lycée.
Bien sûr.
Ou du collège. Mais en tout cas, la géométrie qui m'intéresse est en général une géométrie qui existe ou qui fonctionne dans des espaces de dimensions bien plus grandes que 3. Hein. Donc je me promène dans des espaces totalement abstraits et qui n'ont rien à voir avec l'espace physique que nous côtoyons. Mmh. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que la dynamique ? Eh bien, je peux vous dire très rapidement, parce que c'est un long sujet. Disons que depuis Newton, on comprend à peu près comment fonctionnent, comment les forces impliquent des mouvements. Si on donne une force à une balançoire, elle va se mettre à osciller de manière périodique. Et on peut comprendre par quelques fonctionnements assez simples le rapport entre la force et le mouvement. Et ça, c'est passionnant. Tout le 19e siècle, tous les physiciens, tous les mathématiciens ont travaillé, par exemple, à comprendre le mouvement des planètes autour du Soleil. Vous imaginez qu'une planète, prenons, je ne sais pas moi, la Terre, par exemple, est attirée par le Soleil par une force d'attraction, de gravitation, mais elle est aussi attirée par Jupiter. Ce qui fait que la pauvre petite planète Terre, elle est soumise à plein de forces. Et comprendre comment elle se déplace dans l'espace, c'est une question éminemment compliquée. Et qui a eu des succès, des solutions partielles pendant tout le 19e siècle, jusqu'au moment où un mathématicien qui, à vrai dire, est mon héros mathématique, Henri Poincaré, a proposé d'abandonner l'idée de comprendre tout de manière totale, et il a proposé une approche qualitative de tous ces mouvements. Et la théorie des systèmes dynamiques, tout au moins celle que je pratique, que j'aime, discute précisément de ces mouvements d'un point de vue qualitatif.
Est-ce qu'on peut entendre... Pardon.
Est-ce que je suis à peu près clair ?
Ah, mais plus que clair, vous m'inspirez beaucoup. Alors moi, j'imagine donc cette Terre tiré par Jupiter, tiré par la gravitation, etc. Est-ce qu'elle se déforme ? Et puis, dans cet univers abstrait dans lequel vous errez, les yeux ouverts, les yeux fermés aussi, est-ce qu'il n'y a pas une idée artistique ? Est-ce que vous dessinez ? Est-ce que vous avez tendance, une vocation, peut-être empêchée, de oui. faire des... Est-ce que je suis claire ?
Je dessine beaucoup, certainement pas des choses vraiment artistiques. Je fais des petits croquis, des petits dessins qui n'ont pas d'intérêt artistique, seulement pour moi. Et puis, c'est passé une petite aventure. J'ai eu une petite aventure il y a une quinzaine d'années. Je faisais un exposé quelque part, disons pour un grand public, et j'ai utilisé des images que j'avais trouvées sur Internet. J'ai cherché à savoir qui avait fait ces images. Je suis tombé, je vous raconte rapidement, je suis tombé sur un ingénieur belge qui ne connaissait pas grand-chose en maths, mais était bien capable de faire des dessins sur ordinateur. On est devenus les meilleurs amis du monde et nous avons tenté de dessiner ce que je voulais dire en maths. Et donc nous avons produit plein d'images et même des films. Et quand je montrais ces images aux gens autour de moi, il y a bon, c'est ça les images que tu as en tête. Alors, pour y répondre clairement, oui, ce sont des images qui sont des approximations de ce que j'ai.
Bien sûr.
De mes images mentales. Mes images mentales sont, je ne sais comment dire, en même temps beaucoup plus sophistiquées et en même temps beaucoup plus simplistes. Donc voilà, donc il y a comme une app. J'étais très content, franchement, j'étais très content de pouvoir montrer à des amis, à ma femme par exemple, montrer des choses qui m'attirent, les choses qui m'intéressent, même si ce ne sont que des approximations. Et j'ai donc eu l'occasion, par exemple, de faire avec cet ami belge, Jos Less.
D'accord.
Et j'ai eu l'occasion, de faire deux films mathématiques. L'un s'appelle Dimension, l'autre s'appelle Chaos. Et je dois dire que ça a été un vif plaisir de pouvoir produire un film. L'un et l'autre durent deux heures, hein, c'est quand même pas n'importe quoi, qui donne une approximation du genre d'objet mathématique qui m'intéresse.
Alors, qu'est-ce que c'est que cet Internet Mapping Project ?
Ah, vous avez vu ça, je ne sais pas où, c'est intéressant. Hein.
Ah, mais c'est passionnant, ça, mais c'est fou.
Oui, c'est passionnant, j'y suis pour rien, hein. C'est une très belle idée. On a demandé à, je crois, des milliers de gens de prendre une feuille de papier et de dessiner comment ils voyaient Internet, comment ils pensaient à Internet. Et donc, on a des dessins de toutes sortes, dont certains sont terrifiants, d'autres sont collaboratifs. Il y en a qui dessinent comme un soleil ou qui, eux, ils sont au milieu du dessin, et puis il y a des rayons qui partent d'eux, et puis il y a d'autres, au contraire, il se place un peu dans le petit coin ou à droite. C'est tout à fait intéressant sur le rapport entre notre perception de l'espace, notre perception d'Internet. Je trouve que c'est tout à fait... Il y en a qui sont très beaux, il y en a qui sont très laids. J'adore cette vision pluraliste d'Internet.
Est-ce que vous publiez quelque part vos dessins ? Ou est-ce que vous les gardez ? Est-ce que vous allez en faire un livre ?
Non, j'ai décidé d'abord. Et non seulement je ne les garde pas, mais souvent je m'en débarrasse.
Alors, je voulais savoir que parmi tous ces chiffres, de 1 jusqu'à 9, est-ce qu'il y a une vedette ? Ou bien est-ce qu'ils sont tous utilitaires dans les calculs, addition associative, commutativité, etc. Donc des outils, des objets mathématiques. Ou est-ce qu'il y en a un ou deux qui sont genre... des chefs.
Ah, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Il y a je ne sais pas si on peut dire un philosophe, oui, qui s'appelait Le Lyonnais. Ça vous dit quelque chose ?
Non.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois qu'il a été dans un camp de concentration. Je ne sais pas trop si c'était un camp de concentration d'extermination ou de. Enfin bref, il a été prisonnier. Et pour survivre à ce moment difficile, très difficile dans sa vie, il avait un petit carnet. Et sur ce carnet, il commençait à écrire tous les chiffres qu'il aimait. Et pour chaque chiffre, il expliquait qu'est-ce qu'il avait de particulier, qu'est-ce qui le touchait, etc. Et finalement, quand il est revenu, il a publié un livre dont le titre approximatif est « Mes nombres favoris » ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Je trouve que c'est assez passionnant. Le plan est très simple. Ça commence par 1, deuxième page c'est 2, troisième page c'est 3, mm-hmm. etc. Et ça continue comme ça. Et pour chaque chiffre ou chaque nombre, il explique le lien parfois affectif, parfois de répulsion, parfois d'attraction qu'il a vis-à-vis de ce nombre. Mmh. Alors, pour répondre à votre question, c'est très compliqué parce que ça dépend des individus. Hein,
oui, non, mais je voulais pas parler d'une variante affective individuelle. Je voulais parler d'un chiffre qui a un rôle important dans la médiation avec les autres chiffres. Moi, je vois le 9 et le 0 qui ont une relation particulière. Il y a la preuve par 9. Vous avez un chapitre brillant dans votre livre. D'ailleurs, oui. le livre est passionnant. On tourne les pages et on tombe sur des aides. Comment faire pour compter sans se tromper avec les doigts, avec tout ça. C'est vraiment, vraiment très, très, très passionnant. Ce livre, on le lit et on le relit et parce qu'on n'a pas toujours tout compris. Et parce que tout nous fait envie d'être compris par nous, quoi.
Eh bien, c'est très gentil. Tout ce que je peux répondre, si j'essaie de répondre pour le coup comme un mathématicien et non pas comme un être sensible,
voilà.
je peux vous répondre que tous les chiffres ont le même rôle. Donc c'est que le zéro qui est un peu particulier, mais tous les chiffres ont le même rôle. Vous signalez, par exemple, le chiffre 9, qui a son rapport avec la preuve par 9, par exemple, mais la preuve par 9, c'est un détail anatomique. C'est parce que nous avons 10 doigts que la preuve par 9 fonctionne. Si nous avions 6 doigts à chaque main, eh bien les enfants apprendraient la preuve par 11. Et si nous avions 12 doigts à chaque main, on apprendrait la preuve par 23.
Mais il se trouve qu'on a 10 chiffres. 10 doigts.
On a 10 chiffres, mais voilà. Pourquoi on a 10 doigts? C'est une question plus compliquée que vous poserez à un biologiste de l'évolution. Mais voilà, donc je ne pense pas que le 9 soit particulier. Alors il y en a qui sont particuliers. Le 8 est une puissance 2 puissance 3. Le 7 est un nombre premier. Le 6 est un chiffre parfait. Parfait, vous savez ce que ça veut dire un chiffre parfait?
Non.
Ça veut dire 6 est divisible par 1, par 2 et 3.
D'accord, oui.
1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Autrement dit, le tout, le 6, se réduit à la somme de ses diviseurs. Quand ça arrive, on dit que le chiffre est parfait. 6 est un nombre parfait. 10 ne l'est pas, parce que 10 est divisé par 1, 2 et 5. Et 1 plus 2 plus 5, ça fait 8, ça ne fait pas 10. Mm-hmm. Et donc, 6 est parfait. Si je ne dis pas de bêtises, 28 est parfait. On en connaît un certain nombre de nombres parfaits, mais on ne sait pas si la suite s'arrête un jour. Donc là, il y a les nombres parfaits, après il y a les nombres premiers, il y a les nombres qui sont des carrés parfaits, donc chaque nombre a un peu sa spécificité mathématique, mais ils sont tous égaux. Égaux en utilité, si je veux dire.
Ce livre s'appelle « Ma petite histoire des nombres ». C'est un livre de grande humanité et de grande culture, de grand savoir mathématique. Et je vous remercie, professeur Étienne Guis. Je rappelle que vous êtes mathématicien, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, directeur de recherche émérite au CNRS en unité de mathématiques pure et appliquée à l'École normale supérieure de Lyon. Vous avez reçu en 2022 la médaille de la médiation scientifique du CNRS. Vous êtes également l'auteur, nous l'avons dit, de la petite histoire des flocons de neige. Il y a des maths qui se cachent sous le petit flocon. Et vous êtes également ah oui. Et vous avez écrit également le livre le goût des sciences.
Donc, je crois qu'on peut peut-être arrêter cette longue énumération.
Oui. c'est une énumération très, très, très touchante et très intéressante à tous les points de vue. Je vous remercie beaucoup, professeur Étienne Gis.
Merci pour votre écoute.
Merci infiniment. Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.